de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Le peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain Salvador Dali est mort en 1989 à l'âge de 85 ans. Il devint et reste aujourd'hui une des figures parmi les plus connues et populaires du surréalisme. Il épousa une immigrée russe, Elena Digala, qu'il rencontra alors qu'elle était la maîtresse de Max Ernst et avec laquelle il vécut à New York pendant la Deuxième Guerre mondiale avant de revenir en Catalogne et en France. On connaît la moustache et l'extravagance du personnage qui fut, avec Picasso, le peintre le plus scandaleux et célèbre de son temps. On peut voir ses toiles dans tous les musées du monde. Et lire Le Dali et moi de Catherine Millet, paru chez Gallimard, Salvador Dali à la croisée des savoirs d'Astrid Ruffa, Philippe Quesnel et Daniel Chaperon, publié chez Desjonquières, ou encore de Robert Descharnes, Dali, l'œuvre et l'homme, édité à Lausanne. Et bien entendu, on trouve sans problème les textes de Salvador Dali dans toutes les collections de poche, ainsi que sa correspondance avec Picasso. En 1956, le poète, romancier, dramaturge et homme de radio Robert Mallet recevait Salvador Dali. Les écouter est un régal.
La radiodiffusion Télévision Française vous prie d'écouter Entretien avec Salvador Dali. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Aujourd'hui, méthode paranoïa critique, recherche d'un angélisme et propos sur Picasso.
Salvador Dali, je voudrais vous poser une question, en espérant que cette question ne vous heurtera pas, ou que si elle vous heurte, justement, elle provoque en vous cette bonne percussion de la riposte. Je voudrais savoir comment se retrouver soi-même dans l'image publicitaire qu'on veut donner de soi. Comment ne risque-t-on pas de devenir ce qu'on exhibe ? Ou bien exhibe-t-on ce qui est le plus profond de soi, le plus intime ? Ou bien finalement, ne risque-t-on pas de devenir ce que l'on exhibe ? Est-ce un instinct qui vous fait être ce que vous êtes apparemment ? Ou est-ce le résultat d'une attitude ? Vous avez dit vous-même, vous avez consenti à le dire avec bonne grâce, je suis un simulateur. Mais si l'on est un simulateur, il y a forcément une dissimulation dans cette simulation. Alors je voudrais savoir ce que vous simulez pour savoir aussi ce que vous dissimulez.
Je crois que c'est... Cette chose était presque répondue catégoriquement dans ma vie secrète, où j'explique que j'ai passé toute ma jeunesse et presque toute mon adolescence à jouer à être un génie, sans y croire. Et c'est vraiment en jouant à être un génie que je l'ai devenu.
Oui, vous dites, j'ai fini par croire que j'avais du génie, tellement j'ai dit que je l'avais. Vous le dites, là.
Oui, mais c'est vrai, je ne croyais pas, je jouais, je simulais, je me jetais... des escaliers uniquement pour provoquer l'étonnement de mes confrères de collège.
Quand vous étiez chez les Maristes.
Chez les Maristes.
À Figueras.
Et après, toutes ces chutes ont devenu vraiment des chutes géniales. Et j'étais moi-même complètement convaincu. Maintenant, je suis convaincu que je suis un génie. Mais c'est en jouant à devenir un génie que je l'ai devenu.
Oui, mais là, nous allons envisager une autre conception que celle du génie que vous pouvez avoir de vous-même. Votre comportement ordinaire dans la vie. Vous dites « j'attire les anomalies » et vous citez des cas justement dans votre vie secrète, qui n'est plus du tout secrète pour nous, vous nous révélez tout de vous, et vous finissez par nous prouver que chaque fois que vous tentez quelque chose, l'anomalie surgit, que vous le vouliez ou non, elle est là. Il semblerait donc que votre personnage attire cette anomalie.
D'ailleurs, il faut que je touche le bois, parce que ça, on peut tout simplement mêler ce phénomène pas tellement à celui de l'hasard objectif, mais à celui de la simple chance. C'est-à-dire que je considère que ma vie est remplie d'une chance hyperesthésique et délirante. Et cette chose que vous dites que j'attire ces anomalies se matérialise dans le fait que chaque mois qui passe, je suis de plus en plus entouré par des fous authentiques qui viennent vers moi d'une façon tout à fait fortuite. Il y a des jours à l'hôtel Saint-Régis, à New York, je dois prendre de grandes précautions pour passer à travers le hall, parce qu'il y a parfois 30 fous, mais des fous constitutionnels qui sont en train d'attendre mon passage pour me livrer, ce qui prouve que j'attire.
Oui, mais c'est une chance toute relative, cela.
Ah, pas du tout, parce qu'il n'y a rien de plus stimulant
que la
proximité des événements délirants et des actes délirants.
Oui, pour pouvoir les analyser.
Et pour pouvoir les réduire au rationnel.
Conquête de l'irrationnel par le rationnel.
Ce matériel grouillant, viscéral de l'irrationnel, mon activité première critique consiste à le digérer et à le rendre connaissable et précisément rationnel.
Oui, mais alors, je vais vous poser une autre question. Il est relativement facile de faire la disjonction chez un être entre le phénomène délirant puis le phénomène de création chez cet être. Mais le faire sur soi, faire cette analyse sur soi, faire porter sur soi cet examen, voilà qui est beaucoup plus difficile, et c'est ce que vous avez essayé de faire. Car vous dites « je suis entouré de fous », et voilà une chance. Mais vous avez dit aussi « je suis un fou de précision », en faisant un jeu de mots d'ailleurs.
Non, ce qui veut dire que je suis un fou avec une arme très redoutable, c'est que je suis un fou qui possède une méthode de ma propre invention, qui est justement la méthode par un critique.
Oui, vous dites « je suis fou de précision », et comme je le disais aussi, vous faites un jeu de mots, vous êtes fou de précision, vous avez la passion de la précision, et en même temps, vous avez une sorte de folie dans votre création, de folie, de création continue, organisée, beaucoup mieux qu'organique.
Systématique.
Systématique. Alors, je voudrais que vous développiez cette idée de cette passion, rigueur dans l'acte créateur qui est tout proche de la folie et dans cette méthode, sur ce processus d'analyse que vous avez appelé la méthode paranoïa critique.
Je crois que la vertu de tout ça consiste dans l'agressivité. Les surréalistes ont sombré, à mon point de vue, dans le narcissisme parce qu'ils se sont complus dans leur petite trouvaille irrationnelle.
Oui, ils ont tiré le plaisir de ça. On part toujours du narcissisme, et vous-même, vous en êtes parti. Vous y êtes peut-être
dedans. Mais je l'ai sublimé. Je l'ai sublimé parce que maintenant, quand il se produit dans une journée une série d'enchaînements de type délirant, je les use d'une façon agressive, justement pour les réduire au rationnel. Le contraire de ce que tous mes anciens amis surréalistes faisaient, qu'ils se complaisaient à broder sur ces événements irrationnels, en tirer du plaisir, et attachés au contraire de vouloir que cet irrationnel reste à peu près intact.
Oui, ils ont systématisé l'irrationnel, tandis que vous avez voulu tirer de l'irrationnel quelque chose qui soit en dehors de l'irrationnel, tandis qu'eux se sont cantonnés à cet irrationnel. C'est pourquoi le surréalisme paraît être un échec, tout au moins sur le plan de l'écriture.
Et en tout cas un échec sur le plan de l'impérialisme. C'est pour ça que même au point de vue politique, à tous les points de vue, ils ne sont pas impérialistes, et moi je le suis. Je veux envahir avec cet irrationnel tous les domaines de précision, qu'on pourrait dire, intra-utérines.
Oui, mais les surréalistes ont eu aussi ce désir d'impérialisme. Ils ont voulu être des conquérants, ils ont voulu envahir le monde du visible par cette préhension de l'invisible, de l'inconscient, du subconscient. Ils ont peut-être abouti à un échec, mais ils ont tout de même été très impérialistes.
Mais on ne peut pas être impérialiste quand on bouge plus ou moins dans l'orbite, très spécifiquement française, proustienne. Tout ça, c'est de l'analyse de leur propre cas et de leur propre psyché. Tandis que moi, c'est dans le domaine objectif que j'ai tourné depuis les premiers numéros du Minotaur. J'ai abandonné presque complètement toutes les recherches d'ordre psychologique et freudienne, et je me suis intéressé presque exclusivement à propos des recherches de la physique nucléaire. C'est dans le monde microphysique qui nous pouvait nous offrir des données objectives beaucoup plus violentes
plus
dans le sens
oui.
de la conquête de l'irrationnel que dans la continuation plus ou moins psychoanalytique.
Vous pensez donc que les surréalistes, eux, n'ont pu que se borner au subjectif, n'ont jamais été plus loin, ont abouti à une impasse, tandis que vous, vous êtes passé de ce subjectif, de l'acte délirant intérieur,
à l'acte délirant objectif,
oui, maxima, la projection vers l'objectivité.
Qui est le monde physique, de la physique nucléaire des dernières années.
Oui. Alors, je voudrais maintenant vous faire préciser un autre point. Oui.
Une idée que je crois que c'est nécessaire. Je crois que ce que montre d'une façon plus claire ce que je veux dire, c'est Freud qui me l'a tout à fait suggéré quand il m'a dit, je lui ai apporté à voir un tableau surréaliste typique, il m'a dit, ça ne m'intéresse pas dans un tableau surréaliste trouver ce qu'il y a d'inconscient ou de subconscient, ce qui m'intéresse c'est d'analyser ce qu'il y a de conscient. Parce que dans un tableau surréaliste, tout ce qui est subconscient ou inconscient, on le voit tout de suite.
Oui.
C'est le contenu manifeste.
Mais car la main est toujours consciente.
Et les intentions aussi. C'est-à-dire que nous savons très bien ce que c'est que le complexe d'Édipe. Si Ingres, dans un tableau, Freud peut découvrir qu'il y a le complexe d'Édipe, c'est très important parce que M. Ingres ne connaissait pas la psychanalyse et ne connaissait pas Édipe comme nous le connaissons aujourd'hui. Mais si Dali aujourd'hui fait le complexe d'Édipe, un psychologue découvre que dans ce tableau il y a le complexe d'Édipe, ça n'a plus aucun sens. Donc pour lui, ce qui lui intéressait dans mes tableaux, ce n'était pas le freudisme qu'il y avait, mais le côté conscient que moi-même je ne connaissais pas à ce moment-ci.
Oui, est-ce que vous ne pensez pas qu'un des échecs du surréalisme pictural, c'est justement cette impossibilité d'exprimer par la main qui, elle, est consciente, comme je le disais tout à l'heure, cette démarche de l'inconscient? Ce qui est possible dans l'écriture, par la main, quand elle ne fait que retracer ce que l'esprit a conçu, n'est plus possible dans le domaine proprement pictural. Et finalement, on a abouti à ceci, c'est que les tableaux surréalistes n'ont été surréalistes que dans les thèmes, mais n'ont jamais été dans la plastique.
Ça, c'est exact.
Tandis que vous restez un surréaliste d'esprit profondément et que vous n'avez jamais pu, justement grâce à ce surréalisme pictural, donner libre cours à cet inconscient plastique qui est, je crois, à peu près impossible à traduire.
Qui doit se traduire uniquement par des faits presque brutaux et violents dans le domaine plastique, à cette discontinuité de la matière et à ce fait que, au contraire de ce que dans la cosmogonie surréaliste, on croyait toujours que le microcosmos était la répétition du macrocosmos. C'est pas du tout ça. Dans le microcosmos, tout se passe absolument autrement et en tout cas d'une façon dans laquelle tout déterminisme fait échec.
Oui. Et alors, je voudrais revenir maintenant sur un plan peut-être moins élevé à cette perception du délire créateur qui se prolonge par la lucidité critique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce délire, puis cette façon de le canaliser, cette lucidité, est le propre de tous les artistes? Est-ce que finalement, inconsciemment, est-ce que tous les artistes de génie, je ne parle pas des artistes de talent, je parle des artistes de génie, est-ce qu'ils ne font pas tous ce travail?
C'est le processus même de la création artistique. On part de l'informe et après on dépasse oui. la figuration et le formel et on arrive à l'angélique.
Oui, tout à l'heure, le
grand problème, c'est passer de l'informe à l'ange.
De l'informe au formulé qui n'est pas forcément le conforme.
D'ailleurs, si on ferme les yeux avant de s'endormir et on suit l'évolution de ce qu'on appelle dans le monde scientifique les images hypnagogiques du pré-sommeil,
oui.
Il y a ce processus. On commence pour voir des points, des petits corpuscules, parce que l'obscurité totale n'existe jamais. Et ces espèces de corpuscules s'organisent dans des structures informes. Ces structures informes deviennent des formes précises et tout d'un coup on voit un petit curé avec un chapeau qui va très vite sur une passerelle, donc nous avons déjà une image terriblement concrète, mais cette image nous avons arrivé à Maisonnier, mais de ça arriver aux anges, alors là c'est là où nous en sommes maintenant.
Mais est-ce que cet angélisme, d'après vous, Picasso l'aurait atteint?
Lui est plutôt, comme j'ai toujours dit, c'est un ange déchu, c'est un ange mauvais. Il est angélique, mais il est un ange négatif.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des expressions dans son œuvre qui soient, justement, la traduction de cet angélisme, et d'autres qui soient le contraire, qui soient une sorte de satanisme?
Et, je crois que toujours, comme dans Leonardo, Et c'est plutôt satanique, c'est démoniaque. Picasso, oui. C'est comme Leonardo, même quand il peint des anges terriblement troublants et ambigus.
Dans votre pamphlet Les cocus du vieillard moderne, vous nous montrez une nudité de Picasso et vous nous la montrez comme le comble de l'horreur dans le difforme. Et justement.
Et dans la bestialité.
Et dans la bestialité, mais alors. Oui, la bestialité s'oppose à l'angélisme ici. Mais et moi, j'opposerais le mot difforme au mot forme. Et justement, vous dites que dans ce délire délirant, il faut passer de ce qui est informulé, mais de ce qui existe, à ce qui deviendra formel, à cet angélisme.
Alors non, est-ce non, que justement. Non, il y a premièrement l'informe, après il y a le formel, et après on arrive au maisonnier, c'est-à-dire à cette espèce de naturalisme du formel, oui. Qui est une espèce d'hyperesthésie aussi, et de là, on peut arriver à l'angélique.
C'est-à-dire mais alors que... comment bifurque-t-on, comment déraille-t-on plutôt vers le difforme? À partir de quel moment?
Je crois que le difforme est une espèce de prédisposition congénitale à l'ordre vraiment psychologique.
Oui, mais c'est comment vrai. Expliquez-vous ce phénomène dans le cas de Picasso? Car il est parti, comme vous, d'une peinture très figurative.
Oui, mais c'est toujours, il y avait un élément psychologique qui prédominait, parce que quand on parle de Picasso figuratif, on se trompe parce que c'est des images qui ne sont pas tellement figuratives, c'est des images surtout psychique et sentimentale. Tous ces Arlequins, toute cette époque bleue, il n'y a pas un souci de rendre des images objectivement valables. Tout ça, c'est du maniérisme et c'est surtout très déformé par tous les grands phénomènes d'ordre intérieur. Quand moi j'ai fait du naturalisme, c'est vraiment comme des chromos, il n'y a aucun sentimentalisme, c'est tout à fait précis,
oui.
Objectif comme le catalogue.
Est-ce que vous ne pensez pas que la grande différence entre vous et Picasso, c'est que vous êtes beaucoup plus poète que Picasso? Picasso n'est pas un surréaliste. Il a été tenté par le cubisme, il n'a jamais pu faire
de surréalisme. Non, moi je crois que la plus grande différence, c'est que moi j'ai un type d'intelligence, je suis plus intelligent et j'ai un type d'intelligence archangélique, même pas angélique, archangélique. Et lui, il est instinctif.
Et il est beaucoup moins cérébral que vous.
C'est ça, pas intelligent dans le même domaine que moi, et il a sentimentalement des liaisons très profondes avec tout ce qui est négatif et de type angélique peut-être, mais démoniaque en tout cas.
Il paraît beaucoup plus obsédé que vous par des désirs d'expression purement plastique, en dehors de toute spiritualité.
Pour lui, c'est un mécanisme de défense, parce qu'on voit dans la période bleue, c'est un être très sentimental, presque larmoyant, apitoyé par les gigantes pauvres ou pour les forains. Jamais ça m'est arrivé, des choses comme ça.
Oui, mais on peut être sentimental et ne pas être tellement poète.
Et alors lui, quand vous dites qu'il est très préoccupé par la plastique, il le fait parce qu'il sent cette sentimentalité, c'est une façon de s'en défendre. De même qu'il veut se défendre de la beauté, et de même, comme je dis dans mon livre, qu'une femme montrant un papier collé, n'étant pas très convaincu de la transcendance de ce papier collé, il m'a dit, écoute, en tout cas, ce n'est pas du bougreau. Ce qui prouve qu'il avait une terreur de pouvoir faire des choses qui ressemblaient à bougreau.
Il ne voulait pas être considéré comme un pompier.
C'est ça, donc il y avait un effort tout à fait conscient de vouloir faire quoi que ce soit, mais que ce ne soit pas être comme maisonnier et bougreau. Et à ce moment-ci, moi, je faisais le contraire. Je disais, je vais faire des tableaux qui soient, si je pouvais faire comme bougreau, comme maisonnier, ce serait merveilleux, que ce soit absolument comme une chromolithographie.
Comme une photographie.
Exactement. Et quand je trouvais un monsieur, une fois j'ai trouvé un monsieur avec une légende d'honneur et de guêtres, et qui habitait dans un appartement colfotré, et que ce monsieur a mis à côté de maisonnier un Dali, c'était un des jours que j'étais le plus ravi de ma vie, parce que j'ai dit, finalement, il y a quelqu'un qui connaît vraiment mes vraies intentions. Je préférais beaucoup plus être passé pour un pompier à cette époque, et je considérais qu'à ce moment-ci, c'était vraiment la chose subversive, que non pour passer pour un monsieur avant-gardiste.
Oui. Vous venez de prononcer le mot d'avant-garde. Est-ce que vous ne croyez pas que chez Picasso, il y a ce désir d'être continuellement à l'avant-garde? Et alors, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous avez ce désir?
Je ne crois pas, parce qu'en ce moment, il lui serait très facile de continuer, par exemple, à faire des choses dans le domaine des peintres abstraits. Au lieu de ça, il retourne plutôt à des dessins qui évoquent le sentimentalisme de sa jeunesse, oui. Ce qui prouve qu'il y a quelque chose qu'il s'en fout. Au fond Picasso, actuellement, il, ça lui est absolument égal ce qu'on peut penser de ce qu'il fait.
Et vous aussi.
Comment ?
Vous aussi, ça vous est complètement égal.
Non, 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 moi je tiens à rester un être subversif.
Vous tenez à rester un être subversif. Alors ce qu'il y a de curieux dans votre cas, c'est que l'anomalie que vous cherchez...
Mais pas pour n'importe quel moyen.
Oui, c'est-à-dire, je comprends bien.
C'est pas parce que, à dire, voilà, pas faire de bougoulot, pas faire... C'est pas comme Picasso, je vais être un être subversif parce que je considère que c'est la condition essentielle...
De l'expression de votre personnalité.
De ma vie.
De votre anarchisme congénital.
De mon congénital. De mon caractère.
Oui, mais ce qu'il y a de curieux, je veux reprendre...
Le jour que je me considère un être qui n'est pas subversif, je me considère amoindri vitalement et rempli de poussière.
Oui, alors, si vous me permettez de vous comparer encore à Picasso, je ne sais pas si ça vous fait très plaisir, mais c'est souvent, et c'est même presque toujours en fonction d'un autre qu'on se situe. J'ai l'impression que Picasso, lui, dans son esprit... ne conçoit pas l'anomalie et que c'est dans sa main qu'il la crée, cette anomalie. Tandis que vous, il semble que votre esprit prenne plaisir à se repaître de cette anomalie et que finalement votre main...
Oui, laissez-moi vous dire, moi je suis très prémédité dans tout.
Oui, mais que votre main, finalement, elle aboutisse à une peinture extrêmement classique. Donc, il y a anomalie chez l'un comme chez l'autre, mais chez vous, elle est beaucoup plus dans l'esprit qu'elle n'est maintenant dans la peinture. Tandis que chez Picasso, c'est l'inverse qui se produit. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis.
Non, c'est exact.
Vous venez d'entendre Entretien avec Salvador Dali. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Aujourd'hui, méthode paranoïa critique, recherche d'un angélisme et propos sur Picasso.
La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter Entretien avec Salvador Dali. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Aujourd'hui, pas d'art sans spiritualité, discontinuité de la matière et rôle de l'art abstrait.
Vous avez écrit, Salvador Dali, dans ce pamphlet qui vient de paraître aux éditions Fasquel, Les cocus du vieil art moderne. Je précise qu'il s'agit du vieil art, de l'art vieux, en faisant un jeu de mots. Vous avez donc dit dans cet ouvrage, la peinture est une combinaison de la vision oculaire, de la compréhension spirituelle et de l'habileté manuelle. Cela paraît tout simple, en effet. Mais pour obtenir cette synthèse, qui aboutit aux œuvres maîtresses, aux œuvres de qualité, encore faut-il savoir doser, et c'est ce dosage que je vous demanderai de bien vouloir préciser ici, ce dosage de la vision de l'œil, de la compréhension par l'esprit et de l'habileté de la main.
En réalité, j'ai toujours dit que quand Velázquez peint, l'image lui rentre par l'œil et lui sort par la pointe du pinceau.
En étant passé par le cerveau.
Alors, dans le cas du cerveau, dans mon cas, c'est naturellement, c'est toute une préparation très structurale de l'esprit qui est celle de ma propre activité paranoïa critique et qui transforme d'une manière discontinue le résultat sorti par le pinceau.
Dans l'expression « la compréhension spirituelle », vous faites rentrer ce qui est du domaine du cœur, n'est-ce pas ? Pour vous, le mot spirituel ne correspond pas qu'à l'esprit. La spiritualité, c'est aussi quelque chose de sentimental.
De viscéral.
Donc, encore différent du sentimental. Le viscéral se situe plus bas dans l'anatomie.
Et du cœur, le considérer en tant que le côté musculaire du cœur. C'est ça ce que je voulais dire auparavant.
Oui, donc vous pensez qu'il n'y a pas de grand art sans une spiritualité.
Je crois que c'est le chemin... qui justement qui est tracé vers la chose angélique, la spiritualité.
Oui, il faut donc
la dématérialisation. Il y a un processus constant de dématérialisation qui va de l'informe à l'ange, l'ange étant le sommet de la spiritualité.
Oui, pour vous donc, il n'y a pas d'art purement matériel. Il n'y a pas d'art basé uniquement sur une habileté de la main ou sur une faculté de perception de la vision. Il faut encore qu'il y ait cet intermédiaire supérieur qu'est l'esprit.
Et qui est
Je tiens à vous le faire préciser,
absolument,
dans une époque comme la nôtre,
absolument.
Où l'on aurait tendance quelquefois à croire que l'art pourrait se dissocier d'une certaine spiritualité. Pour vous, il n'y a pas de dissociation possible.
Les choses sont consubstantielles.
Et vous pensez que l'expression des peintures les plus différentes, je pense ici à la peinture anecdotique telle que les soviets nous en ont donné l'exemple, est tout de même la preuve d'une spiritualité, puisque à travers cette anecdote, ils cherchent à magnifier une classe, un labeur ou des individus.
C'est un genre de spiritualité sans transcendance. Et celle de l'art à proprement parler, il a une haute transcendance. Je crois que c'est une question hiérarchique. Évidemment, il y a une certaine spiritualité, mais c'est une spiritualité qui n'est pas transcendante.
Bon, maintenant, je voudrais vous demander de préciser une autre de vos formules tirées de ce pamphlet. Vous dites, peintre, ne t'occupe pas d'être moderne. C'est l'unique chose que, malheureusement, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas éviter d'être. Et vous avez l'air de le déplorer. Aucun peintre ne peut éviter d'être moderne.
Ça, c'est très clair dans mon cas, puisque j'ai toutes les époques, j'aime surtout la Renaissance comme l'époque que j'aurais voulu habiter et produire mes œuvres. Et je considère que l'époque que nous vivons, à part celle du progrès scientifique qui est bouleversant, est d'une décadence et bassesse spirituelle à peu près totale.
Oui.
Que d'ailleurs, je considère que j'ai l'honneur de vivre. Je la vis avec le maximum d'honneur.
Et vous essayez de sauver la peinture de cette décadence. Vous dites, mon nom était
palette,
en somme un nom. C'était une vocation, ce nom, Salvador. Je suis le sauveteur.
Oui, c'est d'ailleurs Francesc Pujol, que c'est un grand philosophe catalan, qui a dit que Salvador Dalí, comme son propre nom l'indique, est destiné rien de moins qu'à de sauver la peinture moderne de la paresse et du chaos.
Alors, je voudrais vous demander comment vous avez voulu sortir cette peinture moderne de l'impasse, je ne dirais pas du chaos, je ne suis pas aussi pessimiste que vous, mais comment vous avez pu, doutant des qualités intrinsèques et des qualités isolées du pointillisme, et d'abord de l'impressionnisme, puis du cubisme, du surréalisme et de l'art abstrait, comment vous avez réussi, vous, à capter dans chacun de ces genres, car il faut bien dire que ce sont des genres, à capter ce qu'il y avait de meilleur pour nous donner une sorte de synthèse, grâce à quoi vous essayez de sauver l'art moderne de cette impasse dans laquelle il s'engage.
Parce que, précisément, dans toutes les démarches valables de tous les ismes et de tout l'art moderne, il y a une seule préoccupation qui est continue, et paradoxalement, c'est celle de la discontinuité de la matière. Les impressionnistes commencent avec la discontinuité de la lumière, qui arrive au paroxysme de leur discontinuité avec le divisionnisme de cela.
Mais alors leurs qualités finissent par devenir des défauts quand ils les poussent à leur point
Toujours
extrême.
Toujours c'est la même idée, c'est le divisionnisme. Après, le cubisme ne fait que hacher et faire le divisionnisme.
C'est une disjonction formes. Également, oui.
Et dans la peinture abstraite d'aujourd'hui, j'ai toujours dit que des peintres comme Mathieu, c'est des décrets royaux de la discontinuité de la matière. C'est une espèce d'acte notarial de que cette discontinuité existe. Les futuristes, la même chose.
Oui.
Les futuristes n'ont fait que morceler par une espèce de très naïf idée de dynamisme. Ils ont fait compénétrer les objets les uns contre les autres et ils ont créé aussi une discontinuité de la matière. Et quand Marcel Duchamp a fait Le Roi et la Reine traverser par des nuits en vitesse, c'était parce que la matière de ces rois et la reine était forcément discontinue. Sans ça, on n'aurait pas pu les traverser. Donc, dans toute la démarche moderne, il y a une seule idée, à mon point de vue, qui est toujours la même et qui est valable. C'est que, à la Renaissance, on croyait que la matière était continue. et la science moderne nous prouve qu'il est discontinu.
Oui, mais vous essayez de faire le trait d'union entre cette conception de la continuité qui n'était pas fausse, puisqu'elle a donné des chefs-d'œuvre tout de même, et cette notion nouvelle de la discontinuité qui risque d'aboutir, si elle est poussée à son point extrême, à un cul-de-sac.
Et qui ne contredit pas la continuité, puisque
non, mais alors
maintenant
vous
il y a,
de...
y a même des tendances scientifiques qui retournent d'une certaine mesure de nouveau à la continuité. C'est-à-dire que dans une vraie œuvre picturale impériale, il faut qu'il y ait des fragments de la matière qui soient compacts et continus, et d'autres qui soient fluides et qui puissent être traversés par tous les corps étranges.
Mais alors pourriez-vous donner un exemple en prenant un de vos tableaux, nous montrer comment vous avez essayé de concilier cette continuité et cette discontinuité?
C'est dans le dernier tableau que je suis en train de peindre.
Une Assomption.
Non, le Santiago. Dans le Santiago, il y a un cheval, et alors ce cheval, il est continu et discontinu sur les mêmes surfaces, sur les mêmes endroits.
Comment est-il continu?
Il est continu parce qu'à une certaine distance, il est absolument visible comme un bougre, comme un ingre, comme un maisonnier.
Un cliché photographique.
Mais, exactement comme il arrive à Velázquez, si vous approchez un tout petit peu, vous voyez qu'il est formé par des corpuscules qui ont tous les formes les plus étranges, contradictoires et paradoxales.
Oui, mais est-ce que déjà dans le point...
En réalité, c'est la double image.
Dans le pointillisme, c'était déjà évident. De loin, un tableau de pointillisme donne cette impression de continuité. En s'en rapprochant, plus on s'en rapproche, plus on s'aperçoit qu'il est discontinu. Alors là, ce ne serait peut-être pas ce que vous auriez apporté de plus neuf.
Non, parce que dans le pointillisme... Tous les points sont posés les uns à côté des autres bureaucratiquement, exactement comme dans n'importe quelle mosaïque à Ravenne. Tandis que moi j'introduis que chaque corpuscule, chaque point est un dynamisme.
Ah oui, un dynamisme particulier.
Particulier à lui, et que chaque point, au lieu d'être un petit point bureaucratique,
oui, qui se fond dans l'ensemble,
soit une véritable tragédie.
Il a son autonomie.
Il faut que chaque coup de pinceau soit l'équivalent d'une tragédie d'Eschyle. Et c'est ça ce qu'ils ont apporté, les abstraits, les tout derniers abstraits.
Mais dans l'effort du peintre pour donner cette autonomie à son coup de pinceau, ou dans ce coup de pinceau lui-même, la qualité proprement picturale, dans la qualité de la couleur, de la ligne, ou parce qu'il y aura un effort du peintre?
Parce qu'il y aura un effort cosmogonique du peintre d'avoir étudié d'une certaine façon les structures et les formes qui n'avaient jamais existé auparavant.
Et l'art abstrait, dans cette conception que vous avez du divisionnisme, car c'est tout de même une façon de diviser la peinture de cette discontinuité, quel rôle joue-t-il, lui, l'art abstrait contemporain?
Joue un rôle expérimental de tout premier ordre, et tout à fait valable.
Oui, mais le fait que vous disiez un rôle expérimental semble être une petite critique, car la peinture doit être un résultat, doit être quelque chose d'effectif, un apport immédiate et décisif, et seulement une expérience.
Mais
je
considère que ça, c'est propre à tous les moments valables de l'art moderne, depuis l'impressionnisme. Je crois que tous ont été des expériences. Mais dans ces expériences, l'unique chose valable était la discontinuité de la matière. Maintenant, les peintres abstraits, c'est les uniques qui sont valables parce qu'ils continuent cette idée sur un terrain tout à fait particulier.
Oui, mais
c'est des expériences qui doivent amener, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils doivent amener peut-être à des créations de structures angéliques, mais pour le moment, ne le sont pas.
Mais parce qu'il n'y a pas encore de système organisé.
Ni de synthèse, ni même de vision.
De vision d'ensemble,
lucide,
oui.
De lucidité. C'est des êtres qui... produisent des documents presque aussi fortuits que ceux que comme aspect que ceux qu'ils nous offrent certaines images photographiques dans la microphysique.
Les peintres abstraits travaillent au microscope. Ils sont dans le microcosme.
Les plus bons sont pour moi dans des choses de microphysique, des choses infiniment petites.
Ou infiniment grandes. On pourrait supposer que certaines images abstraites sont tirées d'un laboratoires où l'on développe les photos prises par des astronomes ou au contraire de photos prises
par des biologues, c'est petit, c'est la microphysique, ce n'est pas
Mais un ciel étoilé peut nous donner aussi cette impression de microcosme.
Ça peut donner cette impression, mais elle est un peu fausse parce que de plus en plus, on voit qu'il y a moins de correspondance de ce qu'on croyait entre le macrocosme et le microcosme. C'est-à-dire le monde infiniment petit obéit à des lois
qui sont très différentes de celles de l'infiniment grand.
Et même contradictoires. Même contradictoires. Cette analogie de le ciel étoilé avec les atomes.
Oui, c'est une analogie à l'échelle de notre vision oculaire, à nous, à l'échelle de notre petitesse.
Et d'une conception très...
très empirique, il faut bien le dire, de la science. Alors, je voudrais maintenant savoir comment vous êtes arrivé, comment vous croyez être arrivé à cette synthèse.
Je ne crois pas que j'y arrive, je crois que... D'ailleurs, j'ai toujours dit, et je crois que je suis un peintre assez médiocre dans ce que je produis. Ce que je considère génial, c'est la vision de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire quand je fais un tableau comme mon Assomption, ce n'est pas que je considère que c'est un tableau réalisé. C'est aussi une expérience comme celle qu'ils font les abstraits. Mais il est plus important dans le sens que je montre comment peut-être pourrait être un tableau le jour qu'on saurait le faire et le jour qu'on aurait passé par toute cette expérience abstraite et le jour qu'on aurait vraiment une sensibilité complètement saturée de cette nouvelle réalité de la discontinuité de la matière. Mais c'est comme une espèce de projet. Je dis, voilà, ça pourrait être un peu comme ça. Il devrait y avoir un sujet religieux comme l'Assomption. Cette Assomption devrait être faite par ce chemin des structures empruntées plus ou moins au cubisme gris de Picasso, au futurisme, à la peinture abstraite. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment réalisé, rien de tout cela. Donc je me considère pour le moment un peintre aussi expérimental que le peintre abstrait, mais avec une vision plus impérialiste et géniale.
Plus totalitaire,
plus
bon
totalitaire,
sens du
exactement.
Vous êtes plus unanime, comme on disait à une certaine époque. Mais ce que vous venez de dire, au fond, est un signe de grande modestie, puisque vous dites que votre peinture n'est qu'une expérimentation. Mais est-ce que ça ne jouerait pas, alors, pour tous les grands peintres auxquels nous trouvons, à juste titre, du génie? Est-ce qu'ils n'auraient pas tenté que des expériences? Alors, est-ce que l'art ne serait pas toujours qu'une expérience? Est-ce que l'homme pourrait un jour aboutir à un art qui serait mieux qu'une expérience? Je ne le crois pas, vous non plus.
Non, mais moi, je considère que au moment de la pleine renaissance, des êtres qu'eux-mêmes étaient des êtres presque comme des anges, comme Raphaël, se sont trouvés soudainement, avec toutes les expériences de la pré-Renaissance, dans leurs mains. Raphaël n'a dû que refaire tout ce que les autres avaient fait et ajouter presque rien.
Oui.
Et ce presque rien, c'était l'ange.
Oui. Mais est-ce que vous croyez que...
Ça, nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui, parce que nous sommes en train de refaire tout. C'est impossible.
Oui, mais je vais vous poser une question précise. Est-ce que vous croyez qu'à l'époque de la Renaissance, vous... Dali, vous auriez pu tenter l'expérience que vous tentez à l'heure actuelle sans que le surréalisme soit passé avant vous, car le surréalisme était passé avant la Renaissance avec Jérôme Bosch, par exemple. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que toutes les époques d'art, au fond, qui ont l'air de progresser, ne font que se répéter?
Je crois qu'on met la clique qu'il n'y a jamais que la répétition est absolument
impensable. Oui.
C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'occuper d'être justement moderne, parce qu'on ne peut pas éviter de l'être. Même si on veut refaire exactement, on veut peindre comme Raphaël, ça sera complètement...
Oui, mais alors ma question, je vous l'ai peut-être mal posée, cette question. Est-ce que vous croyez qu'il y a un progrès possible dans l'art? Voilà.
Moi, je ne crois jamais qu'il y a un progrès dans quoi que ce soit.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Entretien avec Salvador Dali. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Aujourd'hui, pas d'art sans spiritualité, discontinuité de la matière et rôle de l'art abstrait.
C'était les entretiens entre Robert Mallet et Salvador Dali. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois le 28 décembre 1956 et le 4 janvier 1957. Vous pouvez les réécouter pendant 1000 jours et les télécharger pendant un an sur le site des Nuits par franceculture.fr.